C'est bon pour la santé, un magazine animé par Sophie Stanquet et Benoît Rassette.
Notre prochaine invitée se retrouve souvent sur les écrans, mais ce sont ses tubes composés avec plusieurs étoiles de la pop québécoise qui nous habitent encore aujourd'hui. On n'a qu'à penser à ces zéros popularisés par Julie Masse. Manuel Tadros, l'homme des mots, artiste touche-à-tout, qui a produit des albums, coaché des voix, incarné plus de 100 acteurs en les doublant. On le retrouve souvent dans des séries à la télé, mais il est au théâtre en avril 2018 dans « Comment je suis devenu musulman », présenté à la Licorne, et à l'automne chez Duceppe dans la pièce « Oslo », mise en scène d'Edith Patnaud. C'est le père du génie du cinéma, Xavier Dolan, qui est tombé dans l'enfance avec son père dans le doublage. Il continue sa route, la santé au cœur, même si depuis sa jeunesse, il doit composer avec des problèmes de santé. C'est un homme plein d'humour qu'on rencontre aujourd'hui, Manuel Tadros, une autre voix pour la santé.
Manuel Tadros, avec grand, grand plaisir d'être... Avec toi, on va se tutoyer en studio ici.
Ben, on se connaît depuis si longtemps.
Voilà.
On va pas jouer les...
Exactement, hein? Exactement. Alors, un parcours incroyable, un parcours au niveau de l'animation, au niveau de la chanson, du cinéma, du doublage et directeur de doublage. Manuel, est-ce que tu as toujours été comme ça, super actif, hyper actif dans ta vie?
Je pense que oui. Depuis que je suis petit, je suis comme ça. J'ai toujours voulu faire plusieurs choses en même temps. En fait, mon premier rêve était de devenir acteur. Mais mon père m'a acheté une guitare à l'âge de 12 ans. Il m'a payé un cours de guitare parce que j'ai fait un test pour l'oreille et tout ça. Puis j'avais une bonne oreille. Puis ils ont dit, il faut que vous le lanciez là-dedans. J'avais déjà chanté ici et là. Quand j'étais tout petit en Égypte, j'avais chanté dans des soirées. Mais lorsque j'ai eu cette guitare et j'ai commencé à jouer, et là j'ai commencé à écrire des chansons, et là finalement je suis devenu... un chanteur par la force des choses, parce que bon, je savais chanter, mais c'était pas mon premier rêve. Mais la chanson m'a souri. J'ai fait des disques, des 45 tours à l'époque, et ensuite j'ai fait un album, j'ai fait une émission à la télévision, dans la chanson. Et quand j'ai commencé à faire du doublage, à l'âge de 32 ans, et ben là, je me suis dit, ben, si je peux être acteur devant le micro, je ne vois pas pourquoi je ne serais pas à la télé ou au cinéma.
Ah, c'est seulement à 32 ans, finalement.
C'est seulement à 32 ans que j'ai commencé à penser à ça, en fait. Uh-huh. Et c'est seulement à l'âge de 39 ans que j'ai tourné pour la première fois dans une série qui était en fait Omerta.
Mais pourquoi si tard, finalement?
Parce que j'étais occupé avec la chanson, de toute façon. J'étais super occupé à écrire des chansons, à réaliser des disques, à faire la tournée moi-même avec mes musiciens, à me promener d'une ville à l'autre, voir du pays. Et puis, la chanson me prenait du temps parce que j'avais beaucoup d'interprètes qui me demandaient d'écrire, de réaliser, de corriger leurs textes. Et donc, je me suis embarqué là-dedans pendant plusieurs années. Puis, lorsque j'ai commencé à faire du doublage, j'y ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Et c'est là que j'ai décidé de... Il me fallait un agent, quoi.
Où était la place du père de famille dans ce temps-là, non, c'est-à-dire dans... Parce qu'il y avait Pop Express comme animateur. Je veux dire, Manuel Tadros était connu partout. Il y avait les filles, hein, surtout dans la période musicale qui était toujours après Manuel Tadros. La place de la famille à cette période-là, comment...
C'était pas une place énorme, hélas, parce que lorsque j'ai eu mon premier bébé avec Diane, qui était ma première épouse... Aujourd'hui, il a 40 ans. Mon fils va avoir 41 ans cette année, Jean-Philippe.
Jean-Philippe, oui.
Ouais. Puis j'étais toujours en tournée. Mais en plus, c'était la petite tournée. J'étais seul avec ma guitare pendant longtemps. Et à force de voyager, être toujours à l'extérieur et tout ça, ben, je comprends que mon épouse se soit un peu tannée d'avoir un père absent. Mmh. Et puis donc, je revenais toujours les débuts de semaine parce que les week-ends chez moi, c'était dimanche, lundi ou lundi, mardi.
Oui.
Parce qu'on travaillait
relâche,
toujours
jusqu'au
samedi soir, la plupart du temps, et même souvent le dimanche. Et puis donc, on s'est séparés. Mon fils Jean-Philippe avait à peine 3 ans. Et puis, ça a été une fin de semaine sur deux. Ou les fins de semaine, c'était difficile. Donc, c'était le lundi, mardi. Et donc, je n'ai pas été un père très présent pour mon premier fils, je dois l'avouer. Mmh. Aujourd'hui, on se voit régulièrement tous les 3 week-ends.
Mais combien chaleureux, parce que Jean-Philippe a besoin beaucoup de soins aussi, mais combien de, chaleur. Je t'ai vu avec Jean-Philippe au théâtre et je te sentais très, très proche.
Oui, oui, oui. J'aime beaucoup Jean-Philippe. Jean-Philippe, c'est l'exemple parfait de l'instant présent. Il a un handicap intellectuel, léger physique. C'est quand même un très bon joueur de bowling aussi. Puis, il est très sympathique. Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humour. J'adore être avec lui parce qu'il est, il m'apporte beaucoup, beaucoup de joie de vivre, de simplicité. Et puis, ben, je m'occupe de lui tant que je peux, mais je dois lever le chapeau à sa mère qui est une sainte femme.
Qui a pris la relève ou qui prend toujours la relève?
Ben, en fait, maintenant, il est placé dans une maison spécialisée où ils sont 8 personnes, 8... patient, on peut dire, si on veut, pas exactement ça, mais il y a quand même 4 intervenants dans cette maison. Mmh. Et puis, ça fonctionne très bien. Il est très heureux là où il est. Et puis, on a confiance aux gens qui s'en occupent.
Alors, toi, ton enfance, ça n'a pas été évident au niveau de la santé. Il y a eu, à quel âge, là, à l'adolescence, je pense que tu apprends que tu es diabétique.
Oui, à l'âge de 13 ans.
C'est ça. Alors, ouais. comment ça se passe d'abord avant de l'apprendre? Est-ce que tu sentais que tu avais un manque d'énergie? Est-ce que tu savais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas correct?
En fait, c'est arrivé assez brusquement, je dois dire. C'est-à-dire que tant que j'étais... Moi, je suis arrivé au Québec, j'avais 10 ans. Et je suis arrivé dans un quartier où je me suis fait plein de copains à l'école. On faisait beaucoup de sport, on jouait au baseball, on jouait au hockey dans la ruelle, on jouait au foot. Donc j'étais très très actif de façon sportive. Et puis j'ai déménagé de quartier, je me suis retrouvé près du quartier Côte-des-Neiges, en fait, qui s'appelle maintenant Snowdon, sur la rue Victoria. Mais je voulais toujours aller voir mes amis le week-end, je voulais aller les voir au parc Jarry, là où on jouait... Et donc, j'y allais en vélo. J'avais un vélo 10 vitesses. Et j'étais très, très, très énergique, très actif. Je vais en vélo au parc Jarry. Et puis, là, je sens une énorme fatigue arriver au parc. Plus capable de soulever la batte de baseball. C'était trop lourd. Mmh. La balle me semblait peser comme une balle de ki ou presque. Je me suis étendu sur le banc. J'étais déshydraté. J'avais soif. J'étais épuisé. Mmh. Et je ne savais pas du tout ce qui m'arrivait. C'est arrivé vraiment... du jour au lendemain.
Donc brutalement, quoi.
Je ne pouvais pas prévoir que j'allais devenir diabétique du jour au lendemain. Mmh. Alors, je suis rentré à la maison ce jour-là en vélo, ça a pris 6 heures. Parce que je faisais 100 mètres et je me couchais sur une bande de gazon. Et je ne sais pas si vous avez une petite idée de ce qui se passe dans les années 70. Il n'y avait pas de téléphone cellulaire. On avait rarement de l'argent en poche. Les bouteilles d'eau, ça n'existait pas. Et puis, on buvait l'eau du parc... Hein, l'eau qu'il y avait dans la
donc
fontaine du parc.
Donc 6 heures, c'est vraiment un parcours du combattant finalement.
Je marchais à côté de mon vélo, j'étais épuisé.
Pas personne autour.
Je pouvais appeler personne, j'avais même pas 10 sous en poche parce que bon, on n'avait jamais d'argent en poche quand on était gosse. C'est vrai.
C'est même maintenant là, je pense.
Je sais pas comment ça se passe, mais. Alors finalement, ça me prend 6 heures à rentrer à la maison. Je dis à ma mère, je dis, écoute, je sais pas ce que j'ai. Je me couche sur le lit et un docteur vient. Et puis le docteur de famille vient à la maison, il dit, oh, une petite gastro peut-être, ou un petit rhume, une petite grippette. On va le laisser comme ça, donnez-lui un peu d'eau et tout ça. Puis comme de fait, 2 jours après, je suis sur pied, comme si de rien n'était. C'était le premier signe avant-coureur du diabète.
Mais qu'est-ce qu'ils t'ont donné?
Ils m'ont rien donné d'abord.
Fatigue,
rien.
C'est tout.
Ouais. Et bon. Encore pire, parce que ma grand-mère, qui habitait à la maison avec nous, ma grand-mère, elle m'a dit, je vais te donner des raisins, je vais te donner un bon whisky.
Alors,
sucre, n'arrêtait pas de monter.
Alors, de sucre.
Ouais, c'est ça.
On fait une petite pause, on va écouter un de tes hits, et C'est Zéro de Julie Masse. Deux petits mots sur ce hit-là, cette chanson-là. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Qu'est-ce que tu as envie de partager?
J'ai juste envie de dire que quelquefois, l'inspiration arrive un peu aussi rapidement que le diabète. Et que cette chanson-là, je l'ai écrite entre Belleuil et Montréal, dans ma voiture. Et je la fredonnais. Et quand je suis rentré chez moi, elle était déjà écrite. Et puis, je l'ai mise le lendemain sur une cassette. Et je l'ai offerte à une fille. La fille l'a refusée. J'ai insisté pour qu'elle la fasse. Elle l'a pas voulu. 2 mois après, Julie Masse a chanté cette chanson. Elle a fait le hit qu'on sait, 400 000 copies vendues. Et la première a fait une dépression nerveuse.
Chercher qui je suis dans d'autres visages, j'aurais passé ma vie à changer de peau. Zéro, zéro. Je pourrais faire comme les autres, fermer le lit. Une histoire comme la nôtre, ça peut pas se rire. Je pourrais passer ma vie à me tourner le dos. C'est zéro, zéro, zéro. Moi je ne me défile pas. Qui vit dans le noir, mais devant mon miroir, tous les scénarios sont zéro. Zéro. Moi, je ne me défile pas.
Alors Manuel, ça chantait en studio, toujours aussi populaire cette chanson, et on en parlait du karaoké aussi.
Hein. Oui, les oui gens au karaoké, pas, c'est une chanson qui est très 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 prisée.
Très prisée. Alors on revient à l'histoire de Manuel Tadros, qui finalement a pris 6 heures quand il était tout petit à revenir chez lui, puis finalement la grand-maman lui donne du whisky puis des raisins pour dire... Ben,
d'ailleurs
voilà.
Des raisins, je n'en ai pas mangé pendant 20 ans au moins.
Ah.
Ouais, j'étais traumatisé par les raisins verts.
Parce que là... ouais. Alors, elle a donné plein de raisins. Donc,
alors, ce qui est arrivé, c'est que
il n'y a pas de médecin encore.
Jours,
hein.
Non, le médecin est venu, un médecin de famille. Et puis, il est venu, puis il a constaté que c'était une gastro ou une grippe, c'est tout. Il n'a même pas pensé une seconde que ça pouvait être le diabète. On lui disait pourtant que j'urinais beaucoup, que ma bouche était sèche, qui sont les symptômes numéro un qu'il faut surveiller.
Ouais, ouais, ouais.
Et puis, une grande fatigue. Okay, ça, c'est comme ça que ça se passe. Puis, 2 jours après, je suis sur pied, je recommence à jouer au basket avec les copains, baseball et tout. Et puis, quelques jours après, rebelote, fatigue extrême et tout, et tout, et tout. Là, j'appelle mon oncle qui était tout simplement un type qui avait de la culture dans tout. C'était un mathématicien, un ingénieur, un docteur, enfin, il connaissait plein de choses. Il me dit, est-ce que tu veux beaucoup aller à la toilette? J'ai dit oui. Il me dit, est-ce que tu as soif tout le temps? Je lui dis oui. Et tu étais très fatigué? Je lui dis oui. Il dit, alors tu es diabétique. Dit, qu'est-ce que alors, tu me racontes finalement... Qu'est-ce que cette histoire de diabète? Tu sais même pas ce que c'est. J'avais pas, j'avais 13 ans, je savais pas ce que c'était que le diabète. Ça m'intéressait pas. J'ai dit, mais non, mais je vais guérir, on va aller à l'hôpital, et puis ça va s'arranger. Il me dit, je sais pas, il faut que tu fasses des tests et tout ça. Et la copine de mon frère, elle était, par hasard, elle était infirmière, mais elle était au département d'hématologie de l'hôpital Saint-Luc. Elle est venue sur son heure de lunch en bagnole à la maison, avec sa seringue. Elle a pris ma prise de sang, elle est retournée à l'hôpital, elle a fait les tests. Une heure après, elle a appelé ma mère et dit « Ne l'habillez même pas, son admission est déjà faite. Vous sautez dans un taxi et vous arrivez immédiatement. »
Donc ça veut dire que c'était élevé?
À l'époque, j'étais à 636. La moyenne, c'est entre 80 et 120. Ce qui équivaudrait aujourd'hui, avec la nouvelle, les milli machin, 5 à 7, c'est, la normale, c'est entre 5 et 7, ça équivaut à peu près à 40
Donc,
quelque chose.
Donc il y aurait pu avoir évanouissement,
c'est pas juste ça, c'est 24 heures, j'étais en coma. Voilà. 24 heures. Voilà. 24 heures voilà. Avant, je suis rentré à l'hôpital, ils m'ont tout de suite piqué au sérum. Okay. Et puis, ils ont. C'est diabète total.
Ok. Comment est ta perception? Je veux dire, là, on vient de t'apprendre quelque chose qui est à vie, qui est une maladie que tu vas avoir et que tu as
refus
toujours.
Refus total.
Donc, dans le déni?
Total. Refus total.
Mais parce que tu as 13 ans, là, les hormones, il y a tout. Là.
L'adolescence.
Alors, c'est comme non, c'est
pas vrai. L'énergie, le sport. Non, c'est pas vrai. Vous n'allez pas m'empêcher de manger de la pizza. Vous n'allez pas m'empêcher de manger du sucre à la crème avec du pain syrien. Vous n'allez pas, vous n'allez pas m'empêcher ça. Et ça, c'est pas vrai. Voilà, c'est comme ça. J'ai réagi comme n'importe quel gosse l'aurait fait. Puis, je suis quand même resté 5 semaines à l'hôpital.
5 semaines, ça c'est quelque chose, surtout au Québec.
Je peux vous dire
hein.
qu'à l'époque, il n'y avait même pas le fameux petit cathéter là, que l'on pique, là, où on change tout simplement le cathéter. Il fallait faire une prise de sang aux 15 minutes. Alors j'avais l'intérieur des bras bleus, le dessus des mains bleues. J'avais des aiguilles qui me rentraient de partout et puis elles me réveillaient en plein milieu de la nuit. D'ailleurs, je voudrais faire une parenthèse sur les infirmières. Pourquoi est-ce que vous parlez si fort la nuit?
Non, mais
on a réglé le problème aujourd'hui.
On va en parler. Elle travaille plus la nuit, non?
Tout simplement.
Alors, donc, quand est-ce que tu acceptes? Parce que tu me dis, je suis dans le déni, je veux rien savoir, je continue à manger mon sirop d'érable et blablabla.
Ça n'a pas été trop long parce que là, le docteur est venu me voir, puis il m'a dit, Manuel, je t'avise que tu vas être diabétique à vie. Alors j'avais beau lui dire, mais non, c'est impossible, c'est quoi cette histoire? On est en 1970, c'était quand même pas grand-chose. Et puis il m'a dit, non, c'est comme ça, maintenant il faut que tu fasses attention à ton régime, il faut que tu calcules tes calories, ça vaut tant, ça c'est les glucides, les lipides, les protides, les machins. Et puis là, évidemment, je suis devenu moi-même une encyclopédie parce que je m'intéressais beaucoup à ça. Et j'ai donc développé, si tu veux, une science que je n'avais pas avant sur ce qu'était le diabète et pourquoi ça fait ça et ceci. Et donc, ça a pris un certain temps, mais... C'est sûr que quelquefois, je disais « Ah merde, je ne fais pas ma piqûre aujourd'hui. » Mais ça, c'était grave parce que donc c'était assez rapide.
Ça veut dire que quand tu rentres chez toi, tu es un autre petit garçon, un autre ado, où tu dis « Bon, ben, ça y est, j'arrive, c'est fini pour moi. Je suis sûr que ce n'est pas le genre à boire du coke, mais enfin, les choses sucrées,
ça n'a jamais été ça, de toute façon. Heureusement. Premièrement, chez nous, on n'était pas dessert. Tout ce qui était boisson gazeuse était très interdit à la maison chez nous.
Voilà, comme ma
Mon
famille.
Mon père, il a dit, c'est saleté, ça rentre pas chez nous. Voilà.
On connaît ça. Alors, mais par contre, il y a, des, comme tu disais tout à l'heure, ton pain avec un peu de sirop d'érable, des choses...
Ben, c'était même du sirop de la mélasse. C'est un truc égyptien, tu vois. En fait, c'était un plat...
Alors, et dans ta vie tous les jours, parce qu'on sait très bien que quand on va à l'école, c'est... cruel. Hein? On voit, dès qu'il y a une petite différence, que ce soit physique ou santé, on est un peu mis de côté. On voit très bien que les enfants qui prennent du Ritalin, ils sont obligés de se cacher pour prendre le petit médicament parce que tout le monde se rit d'eux. Est-ce que toi, tu as à te cacher? Est-ce que tu le dis à tes camarades de classe? Comment ça se passe?
Bon, alors, il faut comprendre quelque chose. On est en 1970. Il n'y a pas de glycomètre, ça n'existe pas, donc je n'ai pas besoin de faire ma prise de sang, je ne sais pas ce que c'est. Et puis, il y a une piqûre le matin, c'est tout.
Donc tu l'as fait
à
la maison.
On fait sa piqûre le matin, un petit peu plus tard, ça a été une piqûre le matin, une piqûre le soir. Puis maintenant, c'est, je ne sais pas moi, 10 piqûres par jour. Ça a changé, parce que maintenant, j'ai mon glycomètre, et si je vois que je suis haut, je me corrige. Avant de manger, je prends ma glycémie, je me corrige. Je corrige s'il y en a trop. Deux heures après, je refais une piqûre de glycémie. Et je vérifie, je me check tout le temps. J'essaie tout le temps d'être entre 5 et 7. Des fois, ça dépasse un peu, mais c'est... Et puis bientôt, je vais avoir un autre appareil qui s'en vient, que j'ai commandé, mais enfin, ça, on en reparlera. Mais on est en 70, les aiguilles, c'est des clous. Les seringues, c'est du verre que tu fais bouillir, il y a du calcaire qui se forme, ça fait mal. L'insuline est animale, bœuf, porc ou cheval. Et puis, donc, ça s'osmose pas bien avec la peau, ce qui fait que tu piques, mais ta peau devient dure, il faut que tu piques ailleurs, et le temps que ta peau se régénère. Puis comme tu es diabétique, elle se régénère de plus en plus lentement. Finalement, c'est un cercle vicieux.
Mais finalement, c'est bien d'être en 2018 et être diabétique, c'est beaucoup mieux.
Ah, maintenant, c'est très facile d'être diabétique aujourd'hui. Ah, je le souhaite à personne.
Mais c'est plus facile.
Mais non, mais c'est beaucoup plus facile. On peut contrôler le diabète beaucoup mieux. Il y a les pompes, il y a tout ce qu'il faut.
Alors Manuel, tu es avec nous pendant toute l'émission parce que là, on a des chroniqueurs pour toi. L'émission est vraiment fondée sur toi.
Ah ben c'est gentil.
Okay. Tu peux interagir avec nos chroniqueurs, notre médecin qui est là en permanence avec nous et Benoît à la co-animation qui va interviewer quelques personnes, des sujets qui vont t'intéresser.
Et au-delà du diabète, il y a même ce que vous entendez parce que la musique nous agrémente un peu nos vies. Qu'est-ce que vous entendez en ce moment dans votre iPod?
Oh, moi, j'aime bien écouter de la chanson française. J'aime bien aussi les grands chroneurs américains. Dans la chanson française, mon préféré, ça fait déjà une bonne dizaine d'années, plus que ça, 2003. Depuis 2003, depuis 15 ans maintenant, ça passe. Benjamin Biolay, c'est mon préféré. J'aime beaucoup cette musique.
Stéthoscope,
stéthoscope, c'est un moyen d'écouter d'un peu plus près la santé d'un point de vue social ou psychologique. Le régime végétalien est efficace pour perdre du poids, c'est le titre de l'article paru sur lanutrition.fr, mis à jour le 10 mars 2017. Les régimes végétaliens permettent de perdre plus de poids que les régimes végétariens qui admettent certains produits animaux. On devient souvent végétalien par conviction, pour protéger et respecter la vie animale, mais on pourrait aussi opter pour ce régime pour perdre du poids. D'après une étude de l'Université de Caroline du Sud parue dans International Journal of Nutritional Sciences, on perdrait plus facilement du poids en éliminant tout produit animal, en parenthèse viande, œufs, poissons et produits laitiers, fermeture de la parenthèse, de son alimentation. Il existe plusieurs régimes qui privilégient une alimentation d'origine végétale. Le régime végétalien, qui exclut tout produit animal, le régime végétarien, sans viande ni poisson, mais avec des produits animaux comme le fromage, le régime pesco-végétarien, sans viande, mais avec du poisson, et le régime semi-végétarien, avec des apports occasionnels en viande. Dans cet article, les chercheurs ont comparé l'efficacité de ces quatre régimes à base de produits végétaux pour une perte de poids. Les participants étaient des adultes en surpoids qui avaient entre 18 et 65 ans. Ils ont été répartis en 5 groupes selon leur régime à suivre, soit les végétaliens, les végétariens, les pesco-végétariens, les semi-végétariens ou les omnivores. Ils ont suivi le régime pendant 6 mois, ont participé à des rencontres chaque semaine, sauf les omnivores qui avaient des rendez-vous mensuels. Résultat, ceux qui suivaient le régime végétalien ont perdu le plus de poids à 2 et 6 mois. Au bout de 6 mois, la perte de poids du groupe végétalien était de 7,5 kg, ce qui était significativement différent de celle des omnivores à 3,1 kg. Par ailleurs, et c'est la surprise de l'étude, les semi-végétariens et les pesco-végétariens avaient aussi perdu que 3,2 kg, soit sensiblement la même chose que les omnivores. Le régime des végétaliens pouvait contenir beaucoup de glucides, pourtant souvent déconseillés dans les régimes amaigrissants. C'est pourquoi, pour la principale auteure, Gabrielle Turner-McRavy, ouvre les guillemets, cette étude pourrait soulager les craintes de ceux qui aiment les pâtes, le riz et d'autres céréales, mais qui veulent perdre du poids, ferme la parenthèse, plutôt que d'éviter les glucides, il est d'ailleurs possible de mieux les choisir en privilégiant ceux qui ont un index glycémique bas. En définitive, l'éviction des produits animaux, y compris le poisson, semble particulièrement efficace pour une perte de poids sur 6 mois, ce qui peut surprendre l'auteur en premier. J'étais personnellement surprise que le groupe pesco-végétarien ne s'en tirait pas mieux pour la perte de poids. À la fin, leur perte n'était pas différente que celle des groupes semi-végétariens ou omnivores. Avec Manuel Tadros et Sophie Stanky, ainsi que toute une émission de personnes chroniqueurs, chroniqueuses, on va comprendre pas seulement le diabète, mais commençons par le diabète. Au Québec, il y a une réalité qui a beaucoup évolué. C'est le cas un peu partout dans le monde. Manuel, vous le dites, là, dans les années 70, c'était pas exactement joli que d'avoir le diabète. On avait beaucoup de piqûres par jour, des traitements assez peu efficaces, etc. Mais ça a beaucoup changé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on reçoit Sylvie Lauzon, qui est présidente directrice générale de Diabète Québec. Bonjour Sylvie Lauzon.
Bonjour.
Alors, ça ressemble à quoi aujourd'hui au Québec, au moment où on se parle, le diabète?
Bien, écoutez, le diabète au Québec, c'est d'abord presque une communauté.
Ah oui?
Parce que malheureusement, il y a 880 000 personnes qui sont diabétiques au Québec.
C'est immense.
Ces chiffres-là sont les statistiques les plus récentes qui sont sorties à l'automne 2017. Donc, Manuel est diabétique de type 1, qu'on appelait autrefois le diabète juvénile. Je vais quand même laisser l'équipe médicale expliquer tout ça, mais il y a surtout et beaucoup de diabétiques de type 2 au Québec, qui est le type qui se développe autrefois sur la fin de la vie.
Ouais.
Maintenant,
anciennement appelé le diabète adulte.
Tout à fait.
Non, on ne l'appelle plus comme ça maintenant.
Ben, en fait, il y a type 1, type 2, il y en a même plusieurs. Mais
il y a peut-être même un diabète
connus,
aîné, on en reparlera
écoutez,
plus tard.
Écoutez, le 3, le 4, le 5, le gestationnel, mais les deux plus connus étant le 1 et le 2, absolument. Ça va jusqu'à 5 maintenant.
Ah,
moi, par exemple, je suis diabétique de type 2, j'ai souffert de diabète gestationnel au moment de ma grossesse, quand j'ai eu ma fille.
Ah, c'est ça le gestationnel, diabète de grossesse.
C'était le diabète de grossesse et j'ai repoussé quand même la bête pendant près de 15 ans. Mais quand on fait du diabète gestationnel, on a des chances par la suite de développer le type 2, donc celui qui se développe adulte. Mon pancréas fonctionne de moins en moins. Le vôtre, un jour, a décidé d'arrêter complètement de fonctionner.
Ouais.
C'est pour ça qu'on remplace l'hormone qui est sécrétée par de l'insuline qu'on s'injecte quand on a le type 1, ou certains types 2 ont maintenant de l'insuline, ce qui ne se passait pas en 70. Moi, je ne suis pas à l'insuline. Moi, je prends des médicaments par la bouche et je fais un régime quand même de nourriture assez strict, c'est-à-dire que je sais ce que je dois manger et je vérifie à l'aide d'un appareil pour mesurer la glycémie, donc un glucomètre.
Vous essayez d'épargner votre pancréas le plus longtemps possible.
Absolument, parce que c'est comme une bête qui est fatiguée. Si tu le fouettes, il va fonctionner, mais il va décider de fonctionner de moins en moins. Donc, j'ai décidé de ne pas trop fouetter mon pancréas et d'essayer de lui donner un break, comme on dirait en bon québécois. Le secret avec le diabète, c'est vraiment le fait que c'est une maladie qui est stigmatisée. On entend combien de fois? « Ah oui, moi, je vais peut-être avoir le diabète quand je vais être vieux parce que j'aime le sucré, je mange du dessert. »
C'est comme la malédiction de la vieillesse,
on dirait. Ah, c'est une espèce de mythe qui dit « tu manges de la tarte au sucre, puis quand tu vas être vieux, tu vas être diabétique », ce qui est totalement faux. Moi, je n'aime pas le sucré, je n'en ai jamais mangé. Le diabète, c'est une maladie, au départ, qui est génétique, le type 2.
Est-ce que c'est héréditaire?
Et oui.
C'est un virus génétique.
Le type 2 est génétique ou héréditaire. Non. Je ne suis pas la personne médicale, quelqu'un d'autre va en parler. Mais oui, effectivement. Donc, si on a le gène et qu'on le laisse se développer, il se développe. Donc, chez moi, il s'est développé. Il s'est réveillé au moment de la grossesse, puis il s'est développé par la suite. Donc, je suis diabétique. C'est une maladie chronique et c'est une maladie qui est à vie. Qu'elle soit type 1 ou type 2, c'est la même chose. Ce qui est important, c'est de savoir qu'au Québec, c'est une maladie qui est en très grande
croissance
depuis les 10, 15, 20, 25 dernières années.
En horriblement.
Oui, on a atteint cette année les chiffres qui étaient prévus pour 2025 et nous sommes en 2017, 2018.
Et donc, ça explique pourquoi c'est si important d'avoir Diabète Québec, parce que vous accompagnez les personnes partout à mieux gérer, mieux comprendre leur maladie. Qu'est-ce que vous faites exactement?
Diabète Québec, c'est d'abord une association de patients. Donc, on a près de 25 000 membres au Québec, partout à travers le Québec. On a 38 associations régionales qui servent donc de repère aux gens diabétiques partout à travers le Québec.
Et même au moment où ils apprennent, où ils ont le diagnostic, ils peuvent aller vous voir pour le démystifier, mieux comprendre.
Absolument. Qui se rendent sur notre site Internet, donc www.diabète.qc.ca. Et ils peuvent, à l'aide de leur code postal, trouver leur association régionale, dans lesquelles il y a évidemment plein d'activités, des conférences. Les gens peuvent les accompagner. Il y a des soupers témoignages, il y a plein de choses. Ce qui est important, c'est de partager. Quand on reçoit le diagnostic, Manuel l'a dit tout à l'heure, on est très seul. On pense qu'on est unique au monde. Et souvent, on ne sait pas comment va monter cette montagne qui nous semble insurmontable.
Oui, parce qu'on connaît seulement les mythes. On a les pires exemples en tête. Même, on va perdre un pied. On sera en coma. C'est souvent ce qui nous
arrive. Arrête de traumatiser.
Mais là!
Mais écoutez...
On a pour sentir ce que les gens sentent.
Il y a des gens qui ont peur, c'est clair.
Mais Manuel a ses deux pieds avec... parce qu'il est maître en karaté. Faites attention.
Okay. On va vraiment faire attention. Mais Diabète Québec fait attention aux gens aussi. Je sais que vous avez même emprunté la voie des mobiles pour servir et aider les personnes diabétiques.
En fait, on donne des cours au niveau régional. Donc, quand vous faites partie d'une association, il y a des cours qui sont donnés, nutrition et autres. On a effectivement plusieurs applications mobiles. On a des jeux pour les enfants, pour les aider à faire comprendre.
À l'époque, ça aurait aidé.
Ça aurait aidé, Manuel, tout à fait. On a aussi des applications pour les voyages, des applications pour les restaurants. On en a une pour les pompes. On donne plein de cours aussi aux professionnels de la santé à travers la province de Québec. Oui. Infirmières, nutritionnistes, médecins peuvent venir suivre des cours chez nous. Wow. Alors, Diabète Québec, c'est la voix des diabétiques, aussi auprès des gouvernements. Donc, on fait aussi la défense des droits des personnes diabétiques.
Quand vous dites que vous avez 25 000 membres, c'est-à-dire 25 000 personnes qui travaillent pour ou bénévoles ou...
Non, ce sont des patients ou des gens de la famille des patients ou encore qui sont membres chez nous et qui reçoivent notre revue et qui reçoivent de l'information.
Ah bon? Mais sur 800 000 diabétiques, c'est mieux que la pointe de l'iceberg, finalement.
Tout à fait, mais il y en a plus de 250 000 qui consultent notre site Internet à tous les mois.
Ah, bon, OK. Ah, et d'ailleurs, ce site web-là, c'est diabète.qc.ca. www.qc.ca. Oui. On retrouve non seulement, comme vous le dites, la possibilité de trouver notre association locale, peu importe qu'on soit à Gaspé ou à Montréal, mais en plus, il y a toutes sortes de jeux, d'informations, etc. Et en terminant, est-ce que vous êtes confiante, même s'il y a beaucoup de gens qui ont le diabète, est-ce que vous êtes confiante que les gens vont bien prendre en charge leur situation, qu'ils sont capables de faire les bons gestes?
Écoutez, on l'espère en 2018. Oui. Manuel a été capable de le faire en 70. C'est sûr qu'en 2018, on a des moyens qui n'existait pas il y a 25-30 ans. Par contre, le diabète est plus présent que jamais. L'information est là. S'il vous plaît, la clé pour le diabète, c'est la formation et l'information.
Voilà.
L'éducation, c'est la clé du succès.
Je sais. Il y a beaucoup de gens qui se rebellent contre ça. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah là, c'est correct, je vais être correct, c'est beau, laisse faire. » Beaucoup, beaucoup de personnes âgées, ils sont habitués dans leur petit patelin, dans leur truc, ils sont habitués à leur petite routine, à manger leurs petites choses et tout ça, puis ils changent rien à leur vie. Ils pensent que ça va être, ils pensent que la pilule, le metformine ou le glumetzas, ça va tout changer, ça va être beau, tu veux faire n'importe quoi. C'est pas vrai. Moi, j'ai un de mes meilleurs amis qui est diabétique, il l'a su il y a à peu près 6 ans. Et puis, c'est grâce à sa bonne alimentation qui réussit à bien contrôler sa glycémie et grâce à la vue qu'il a un petit peu plus éclairée sur les choses. Mais à partir du moment où il se met à tricher, ben ça part, c'est
voilà.
Fini.
Manuel Tadros nous rappelle à quel point il faut s'écouter, bien sûr, développer des bonnes habitudes. C'est heureux, on va vous entendre, non seulement on vous entend, mais plusieurs chroniqueurs au cours de l'émission viendront nous aider en ce sens. Merci beaucoup, Sylvie Lauzon.
Merci, ça m'a fait grand plaisir.
Alors François Barouel, merci d'être toujours à l'écoute et d'être avec nous pendant toute l'émission. Alors comment ça se développe ce diabète? Est-ce que ça se développe finalement?
Ça dépend du type, mais le type 1, il ne se développe pas, il vous tombe dessus. Mm-hmm. C'est vraiment ça en fait.
Comme Manuel.
Celui de Manuel, il lui est tombé dessus brutalement. Ouais. Et dans ce cas-là, on ne peut pas faire grand-chose d'autre que de toute façon de faire un traitement par insuline le plus précis possible, comme il le racontait d'ailleurs.
Oui.
C'était pas du tout précis au départ.
Ah
et
non.
Progressivement, maintenant, ça l'est de plus en plus. Donc ça, c'est pas vraiment un trop grand problème, à la limite.
Mm-hmm. Et est-ce que la question la plus importante au niveau des diabétiques se pose toujours, est-ce que ça monte au niveau du cœur? Est-ce que ça peut avoir des incidences sur le cœur, le diabète?
Le diabète peut avoir des incidences sur le cœur, bien sûr, puisque ce sont toutes les petites artérioles qui, avec le temps, finissent par être bouchées à cause de l'hyperglycémie qu'on a plus ou moins en permanence. Mmh. Ce sont toutes les petites artérioles. C'est pas seulement le cœur, c'est pas seulement les coronaires notamment, mais c'est aussi les artérioles des doigts de pied, les orteils,
c'est
la plante des pieds, c'est même la gencive. Toutes ces petites artérioles-là. Et donc aussi, dans certains cas, ça peut être aussi la rétine.
C'est ça, donc cécité. Cécité et amputation. Quand est-ce ça se rend jusqu'à là?
Ça se rend jusqu'à là. Alors en fait, on peut dire, il y a une vieille théorie qui n'est pas complètement fausse. C'est qu'en fait, on a un capital d'hyperglycémie possible. On a comme un compte en banque d'hyperglycémie possible.
Mmh.
Et quand on le dépense trop vite, eh ben on va avoir des complications.
Ouais.
Et au niveau du moral et de l'humeur? J'ai même vu Manuel, parce qu'on a eu le plaisir de jouer au théâtre ensemble, que quand ils sont en hyperglycémie, il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau du comportement.
Oui, absolument. Oui, il y a une modification du comportement. Ça peut être une modification simplement de l'humeur. Souvent, d'ailleurs, c'est un petit peu agressif.
J'ai des épisodes, je peux vous faire rire.
Agressif, oui. Ça peut être un peu énervé, un peu agressif.
Ça se voit
très souvent d'ailleurs quand les gens ont faim. Et c'est souvent parce qu'il y a une petite hypoglycémie qui est en train de se faire. Ouais. Même chez des gens qui ne sont pas diabétiques.
Ouais.
Ça, on trouve ça. Mais ça peut être aussi parfois des actes un peu délictueux, même s'il y a des explications d'actes délictueux dus à une hypoglycémie.
Ouais. Enfin, bon, Manuel, ça, c'est les extrêmes. Tu avais une question, Manuel.
En fait, c'est pas une question, c'est pour souligner ce que vous disiez, docteur. Dans les années 70, là, quand je suis devenu diabétique, mon capital d'hyperglycémie, c'est là que je l'ai bousillé. Mon capital d'hyperglycémie dont vous parliez. Parce que il n'y avait pas de contrôle, il n'y avait rien. À partir du moment où j'ai eu ma machine et que j'ai commencé à contrôler et que j'ai commencé à prendre ma glycémie, à partir de là, bon, mon diabète s'est stabilisé. C'est-à-dire que bon,
absolument.
Mais sauf que mes reins avaient déjà été assez bousillés dans les 20 premières années de mon diabète.
D'accord.
Et c'est con parce que mon néphrologue m'a dit, vous avez bousillé vos reins, mais pas maintenant, parce que vous avez un bon, vous avez un bon, une hémoglobine glyquée, pas mal, mais je ne sais rien de ça, moi, dans les 20 premières années, de 70 à 90, 92, 93, dans ces années-là.
C'est sûr, parce qu'en fait, avec une injection par jour, avec trois repas,
ensuite,
c'est
pas
possible.
Ensuite, D'ailleurs, je suis passé d'un docteur à un autre, il y a un docteur Geron, qui est décédé aujourd'hui, que j'ai beaucoup aimé, qui était à l'hôpital St. Mary's à l'époque. J'ai été le voir parce que j'avais un docteur au départ dans l'hôpital Saint-Luc. Puis je me sentais pas bien, ça allait pas bien, hyper, hypo. Puis l'auteur m'a dit, c'est pas compliqué avec le régime qui t'a donné, d'ici 6 mois tu passeras plus dans la porte, tu vas être gros. Parce qu'il m'avait donné un régime calorique beaucoup trop élevé, avec beaucoup trop d'insuline pour corriger.
Mais oui.
Ce qui fait que, puis là il m'a descendu mon nombre de calories par jour, il m'a descendu mon insuline, et puis là j'ai commencé à contrôler. Après il a pris sa retraite, j'en ai pris un autre docteur. Et là depuis l'an 2000, j'ai eu une doctoresse extraordinaire, Tina Cater, à l'hôpital juif, qui fait le triathlon. Donc, elle prêche par l'exemple le sport. Et celle que j'ai actuellement, c'est
Dr. Ça, c'est un élément très important, le sport.
Alors,
exact.
On va revenir... Dr. Eid, elle aussi, c'est une marathonienne. Et puis, c'est une excellente endocrinologue.
Manuel disait bousiller les reins.
Oui,
comment on sait quand est-ce que... Par exemple, je viens d'avoir le diagnostic, je prends une personne fictive qui vient tout juste d'avoir le diagnostic d'être diabétique. Comment cette personne-là sait que ses reins sont atteints? C'est quoi les tests? Qu'est-ce qu'elle doit faire attention? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Elle n'a pas à faire attention à ses reins. En fait, on sait que ses reins sont attaqués parce qu'il va y avoir une augmentation de la créatinine, parce qu'il va y avoir une clairance de la créatinine qui va baisser, etc. etc. Ce sont des anomalies dans le ionogramme urinaire et dans l'ionogramme sanguin, en fait, qui va montrer qu'il y a une anomalie des reins. Mais en fait, elle n'a pas à s'occuper de son rein. Elle a à s'occuper principalement
de sa glycémie.
C'est tout ce qu'il faut faire. Et faire du sport. Ouais. Je voulais en parler quand même. C'est super important.
C'est ça. Donc, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, on a... Manuel prend des piqûres, des injections.
Ouais.
La dame qui était là à l'émission avant nous parlait de pilules. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? On parle évidemment du régime. On va en parler un peu plus tard dans l'émission. Ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger.
Je vais prendre un exemple. Je vais prendre une image. Elle parlait tout à l'heure de fouetter la bête pour essayer de la faire sécréter un peu.
J'ai vu que vous aviez une tête un petit peu de rabougri là.
Elle a pas tort. Mais l'idée c'est qu'en fait on peut. Je vais prendre une comparaison mécanique. Mais
qu'est-ce que vous avez pas aimé à fouetter la bête
C'est qu'en fait
c'est l'image elle-même.
C'est simplement qu'en fait il faut pas fouetter la bête. Elle avait raison quand elle disait qu'elle économisait son pancréas parce qu'elle a raison. Okay. En fait, c'est tout se passe
faut
comme
la
si il faut ben il faut surtout pas trop tirer dessus.
Okay.
Et c'est comme si on avait un pancréas d'une c'est comme un moteur de voiture. Mmh. Imaginez que vous avez un moteur. Par exemple, c'était Sylvie Lozon qui, elle a peut-être un pancréas pour un scooter, alors qu'elle a une carrosserie de Mercedes, par exemple. Et si vous avez ça, il ne faut pas aller trop vite. Et si on tire trop, ça éclate. Et c'est ça le problème du diabète. C'est qu'il n'en peut plus, le pancréas. Si on tire trop sur l'animal ou sur le moteur, eh ben, il va cramer.
Alors, vas-y, Manuel.
Non, en fait, je voudrais dire, juste pour revenir à l'affaire des reins, parce que moi, les reins, c'est quelque chose quand même de nouveau dans ma vie. Je n'ai pas de rétinopathie en tant que telle, mais je suis sujet à une éventuelle rétinopathie, peut-être plus tardive, parce que maintenant, au début, j'ai eu un truc d'alarme qui a été très fort. Il m'a dit, OK, si tu continues comme ça, d'ici 10 ans, c'est la dialyse. Alors, donc, j'ai eu peur, j'ai commencé à contrôler encore beaucoup plus. Puis j'ai changé mon régime. Je suis devenu végétalien pendant un certain temps. Donc ça a stabilisé, si tu veux, la croissance de la rétinopathie.
Mais végétalien à végétarien maintenant ou pas?
Ouais, maintenant je suis flexitarien.
Mais ça n'est pas l'indicateur de...
Attends. J'ai dîné super végétarien. Ce soir, je vais peut-être manger un peu de saumon cru avec que du végétarien. Le matin,
le saumon, ça va là. C'est pas de la viande rouge quand même.
Non. Mais végétarien, c'est quand même un animal. Végétarien ou pas, je sais pas moi. Quoi qu'il en soit, la question est pas là. La question est de savoir exactement ce qu'on fait par rapport à nos glucides. Ça, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important avec le diabète. Mais ce que je veux dire, c'est que la rétinopathie, si les gens, les diabétiques de type 2, mon message est suivant. Si vous contrôlez votre diabète et que vous faites attention, vous n'aurez pas besoin de faire la dialyse. Même si le rein est un organe qui est constamment en régression. Mmh. Pour une personne normale, il y a un pourcentage, mais une personne diabétique, le pourcentage est plus haut de la régression. Je pense que vous êtes d'accord avec ça.
Mais pourquoi le médecin lui a dit, docteur Baruel, pourquoi le médecin lui a dit, faites attention, vous allez peut-être faire la dialyse. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu les petites lumières rouges pour dire à Manuel, faites attention.
Parce que de créatinine était élevé.
Exactement, le taux de créatinine était élevé. Et ça veut dire qu'en fait, les glomérules, les cellules des glomérules dans le rein de réabsorption sont touchées. Donc ça veut dire qu'on n'arrive plus à nettoyer le sang.
Et donc, il y a des protéines qui restent dans le rein. Et il y a des protéines, alors qu'il ne devrait pas y en avoir.
Il y a de l'urée. Et l'urée, donc on fait de l'urée. C'était autrefois, fait un peu d'urée. C'était ça en fait, c'était une insuffisance rénale.
Avec la nutrition et le sport.
Oui.
Oui. Manuel peut être correct.
Absolument.
Pour les prochains,
tout à fait.
Mois, prochaines
la
années.
Nutrition, le sport et les machines qui sortent maintenant, qui sont des machines sans fil.
Comme le Dexcom.
Qui sont des machines automatiques et qui permettent de donner exactement la quantité d'insuline qu'il faut.
C'est ça que j'ai.
C'est génial ça.
C'est formidable.
Alors ça c'est plus précis.
Mais je peux dire une chose, c'est qu'avec le rythme de vie que j'avais quand j'étais adolescent, ce qui m'a sauvé, c'est le sport.
Bien sûr.
Et ça,
tout à fait.
Je ne le savais pas.
Tout à fait.
C'est-à-dire que j'aurais très bien pu être un jeune étudiant sédentariste collé sur son cul à regarder la télé, mais c'était pas mon cas. Moi, c'était
le foot. Mais ça
n'est
pas non plus encore, non ?
Hein ? Non, pas
là,
du tout.
Là, t'es toujours au karaté, là, ou pas ?
Non, j'ai arrêté le karaté. J'ai arrêté le karaté parce que là, j'étais trop occupé. Et puis les horaires de karaté, c'est très sérieux. Tu peux pas arriver en retard.
Mais vous faites du sport quand même.
Mais
je fais du sport.
Voilà, c'est ça qu'il faut faire.
Je fais du sport.
Absolument.
Ouais. Je fais 3 heures d'entraînement par semaine.
Ouais,
et puis je marche, je prends le métro.
Voilà.
Puis voilà. Mais je peux dire que j'ai fait pendant toute ma vie, de l'âge de 13 ans jusqu'à l'âge de 50 ans, du sport de tous les genres, tous les jours.
Est-ce que c'est ce qui l'a aidé ?
Oui, certainement. Certainement parce que le sport, ça fait baisser la glycémie. Le sport simplifie les choses et évite les trop grandes hyperglycémies qui lui ont mangé quand même en partie son capital.
Alors, on revient tout de suite après.
Peuvent être faits pour faire reculer le diabète. Le sport en est un. Il semble que Manuel Tadros, à un certain moment de sa vie, a aussi choisi, disons, le végétal plutôt que la viande. C'est bien ça? On peut dire ça, oui. Et on se demande si c'est une bonne stratégie, puis aussi s'il ne faut pas compléter avec toutes sortes de choses que la naturopathie pourrait nous amener. Alors, on a avec nous Mali Pradichit, naturopathe, qui va peut-être nous éclairer.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Oui, les suppléments pour les végétaliens ou les végétariens, il y a comme le mythe que ça peut être très carencé. Ça va dépendre encore de l'alimentation de la personne. Si la personne va manger d'une façon variée, va aller chercher comme il faut ses protéines, elle peut s'en sortir sans carence, sans supplément aussi. Mais c'est sûr que les suppléments, c'est comme un bonus pour le corps, puis ça va être une façon de prévoir justement les carences si on n'arrive pas à varier à tous les jours les protéines, les légumineuses, les noix. Puis c'est ce qui est l'idéal, en fait, pour un végétarien.
De prendre à la source, au fond, de prendre
à
tout
la
de suite
source. C'est
les
ce qu'on
vrais
recommande
nutriments,
d'abord.
Ouais.
Mais après ça, on va aller chercher compléter avec des suppléments. Si, c'est sûr qu'il y a des suppléments comme la vitamine D qu'il est nécessaire d'aller chercher parce qu'on vit dans un pays qui a moindrement de soleil. Il n'y a pas de soleil, en fait, toute l'année.
Pour prendre quelques vitamines de soleil. Là.
Quand même, que ça soit végétarien ou pour les personnes qui mangent la viande, il y a des suppléments qu'on a besoin.
Mais on oublie deux instants, végétalien, végétarien, on y reviendra. Quand on est diabétique, est-ce qu'il existe des suppléments ou des manières de venir compenser? Qu'est-ce que vous conseilleriez, disons, à Manuel ou à quelqu'un d'autre qui vit avec le diabète?
Avec le diabète, c'est d'aller chercher une alimentation qui est faible en sucre, les glucides. En fait, c'est ça que les diabétiques n'arrivent pas à bien, pas assimiler, mais bien rentrer dans les cellules. C'est d'aller chercher une alimentation qui est bonne en glucides, puis d'aller chercher une alimentation qui est quand même riche en bons gras. Mais encore là, ça reste une alimentation non transformée, non raffinée. C'est ce qui est riche en sucre, puis qui va faire élever la glycémie dans le corps.
Puis... la stratégie que Manuel avait adoptée, donc...
Il y avait quand même une bonne raison pour ça.
Oui.
Parce que j'ai été tourner un film en France en 2015. Ça fait pas longtemps, hein, ça. Ah. On est en 2018 seulement. J'ai tourné un film en France en 2015. Je suis resté 2 mois dans les gorges du Verdon en Provence. Et on mangeait, on buvait du vin. Je suis revenu ici à 196 livres. Là, je trouvais que c'était beaucoup trop.
Ah ouais.
Là, j'ai dit qu'il fallait que je fasse quelque chose parce que j'avais fait beaucoup de régimes. J'avais essayé plein de trucs. J'avais essayé le Montignac, j'avais essayé le Atkins, j'avais essayé une nutritionniste qui est venue à la maison et tout ça. Et puis ça fonctionnait un certain temps. Ensuite, ça ne fonctionnait pas. J'ai dit ok, là, il faut que je fasse quelque chose. Et un ami m'a dit tu dois aller voir un naturopathe. Lui, en question, c'était Christian Limoges à la clinique de l'Aube. Je ne sais pas si vous le connaissez.
Oui, on connaît bien, il est très connu, M. Limoges.
Alors, je suis allé le voir, puis il m'a expliqué des choses que je ne savais pas, malgré que j'avais quand même presque la soixantaine. Et puis, j'ai décidé, comme ça, brusquement, de tout changer. Je suis resté 6 mois végétalien.
Mais en étant végétalien...
J'ai perdu 23 livres.
Ça fonctionne?
Mon énergie était à son plus haut niveau. Ma forme était extraordinaire. J'étais jamais fatigué. J'avais plus besoin j'avais plus de coups de barre l'après-midi. J'étais en super grande forme. Mon diabète était, ma glycémie était magnifique. Et j'ai dit, ok, là, il y a quelque chose qui se passe. C'est beau. Sauf que, évidemment, comme tout bon délinquant que je suis, j'ai donc décidé un jour de manger un peu plus de viande de temps en temps et recommencer à bouffer un peu de pain, etc. Mais je dois dire qu'aujourd'hui je suis quand même pas mal. J'ai un peu de ventre parce que bon, j'ai eu une petite opération il y a 2 semaines, j'ai eu une hernie ombilicale suite à une appendicite. Tout ça, c'est un peu tout relié, tout ça. Et puis,
mais il y a des bons réflexes, disons, végétariens, végétaliens dans votre vie.
Maintenant, c'est un mode de vie en réalité. C'est pas un régime, c'est pas la même chose, c'est un mode de vie. Tous les matins, je prends ma petite purge, là, tu sais, aloe vera, chlorophylle, le psyllium et tout ça. Et ça permet, bon, on va dire des choses telles qu'elles sont, ça permet un dégagement de l'intestin.
Oui, exactement, nettoyer
et parce
un
que
peu.
Tout part de là, en fait. Tout part de là, parce que si on est coincé là, ben le corps, il va absolument transformer le corps en alcalinité, alors qu'on bouffe de la viande, on est acide et tout ça. Et ce qu'on veut, c'est être alcalin. Alors quand on mange beaucoup de légumes, quand on mange beaucoup de salades, quand on prend beaucoup de chlorophylle, ben on alcalinise le corps et le sang. Et puis, c'est très bon pour le contrôle du diabète.
Donc la prescription de Manuel Tanros vous inspire?
Oui, oui, je trouve qu'il n'y a pas de... Selon moi, il n'y a pas de régime miracle, il n'y a pas d'un qui est mieux que l'autre. Il s'agit juste d'en choisir un qui nous convient à nous, à notre métabolisme, puis à notre philosophie aussi. Mais c'est de bien le faire, puis d'aller choisir en fait la qualité alimentaire. Comme vous avez dit que vous avez pris beaucoup de poids, puis là vous avez opté vers le végétalien, mais c'est plutôt le fait que vous avez opté pour beaucoup de légumes, vous avez changé comme vos habitudes alimentaires, puis vous êtes allé vers des choix plus sains. C'est ça qui a fait que vous avez perdu du poids.
Est-ce que tu as repris le bœuf? Parce qu'on dit que ça prend 5 à 6 heures pour digérer le bœuf. Est-ce que dans tu me dis, je suis un petit peu rebelle, ce midi c'est végétarien, peut-être ce soir. Est-ce que tu as repris le bœuf ou pas?
J'ai repris du bœuf, mais de façon très occasionnelle. Avant, je pouvais manger du bœuf tous les jours. Je ne voyais pas pourquoi je n'en mangerais pas. En fait, c'est vrai. Quand j'ai compris le truc de l'acidité, là, ça a été clair pour moi. Aujourd'hui, je pense que, comme j'expliquais à Malice, c'est un, C'est un mode de vie. C'est pas, tu te fouettes, attention, tu ne mangeras pas ça. Ah, ok. Parfois, je vais manger au restaurant, puis des fois, on n'a pas tellement le choix. Ils n'ont pas beaucoup de salades. Ils sont pas, ils sont
ou
très,
sont moins intéressants, toi, non, au restaurant.
Alors, moi, ce que je fais, c'est con, hein, mais je me bouffe une salade avant d'aller au resto.
Ah ouais?
Ouais, je me bouffe une salade avant d'aller au resto, et je fais ce qu'on appelle un nid.
Oui,
oui. Je
un peu de réserve.
Vous allez chercher votre verre.
Et
avant.
Après, je peux aller manger mon petit morceau de viande. Et tout
ok. Ça. Et en terminant, les végétaliens... parce que c'est pas un végétalien, là, on l'a autoproclamé végétalien, mais il fait des choix végétaliens ou végétariens. Mais le végétalien doit quand même peut-être surveiller un peu mieux
oui.
que le végétarien.
En fait, les carences, ça va être surtout les carences en B12, parce que c'est surtout de source animale. Faut faire attention aussi au fer, puisque le fer non hémique est moins bien absorbé. Faut consommer le double presque de fer, puis d'aller rajouter aussi une vitamine C pour mieux absorber aussi.
Ah oui, la vitamine C, ça permet l'absorption.
Oui.
En plus qu'on en manque quand il y a peu de soleil aussi là.
Avec ouais, c'est ça, avec la vitamine D aussi également. Mmh.
Bon, Mali Pradichit,
vous préconisez que si on a un régime végétalien ou végétarien, il faut qu'on prenne des suppléments de fer, de vitamine C et de vitamine D.
Calcium, il y en a vraiment beaucoup dans les légumes. Donc, la vitamine C, on va aller nécessairement le chercher dans tous nos fruits et légumes.
Mais la B12 est importante pour les végétariens et végétaliens.
Pardon?
La B12 est importante
pour... Oui, très importante parce que, justement, elle provient de plus de sources animales qui vont être faites aussi dans les intestins. Donc, il faut se supplémenter.
Voilà. Alors, c'est dit. Merci beaucoup, Mali Pradichit. Rappelons que vous êtes naturopathe.
Merci, au plaisir.
Merci.
Manuel Tadros, le doublage, bon, il y a eu évidemment l'animation, la chanson et le doublage depuis 25 ans?
Non, 30 ans.
30 ans, 30 ans maintenant,
cette année.
Ça y est?
Ouais.
30 ans.
Ouais,
alors,
88.
88, ce que les gens ne savent pas, c'est que ton fils Xavier Dolan a fait du doublage aussi.
Bien sûr, bien sûr. Et Xavier, il a suivi son papa dans les studios au début, j'allais le chercher.
Oui, tu le traînais.
Je le traînais avec moi, puis il voulait absolument faire du doublage. Ouais. Puis un jour, je lui ai dit, allez, c'est le moment, tu as vu comment ça fonctionne, etc. Et ça a été, il a été bon tout de suite, tout de suite. 7-8 ans, là, ça y allait.
J'ai eu le plaisir d'être avec lui sur un Harry Potter, il était fabuleux.
Ah, il est fabuleux.
Ouais. Ouais.
Et c'est une machine.
Ah oui, tout à fait. Très rapide, très vite, aussi vite que toi. 30 ans de doublage, mais ce n'est pas évident parce que la France, la Belgique, surtout la Belgique, qui essaye de voler
et
le
même
travail.
Barcelone, Tel Aviv. Imagine-toi, il y a des studios là-bas maintenant. Ouais. Et puis, ils font des doublages au tiers du prix que nous demandons ici, parce que nous sommes ici, nous avons le syndicat de l'Union des artistes, nous avons le syndicat de la Sartec, nous avons des prix qui sont... Et on a même coupé dans nos prix, on a fait des négociations. Mais c'est pas évident. Il y a moins de doublages qu'il y en avait. Mais... voilà, c'est pour ça qu'il faut que je me diversifie, moi.
Mais quand tu parles de doublage, parce que les gens ne connaissent pas vraiment le métier, d'abord, est-ce que tous les comédiens peuvent faire du doublage?
Non. Non, absolument pas. Le doublage est un art en soi à part. Comme il y a beaucoup de gens qui sont très bons au théâtre et qui ne peuvent pas faire de doublage. Il y a des gens qui sont très bons au cinéma, qui ne peuvent pas faire de doublage. Il y a des gens qui sont très bons en doublage et qui sont pourris au théâtre et au cinéma. C'est étrange. Mais le doublage, c'est une matière qui demande un bon jeu, une bonne diction, une lecture extrêmement rapide, une compréhension de texte très rapide, une habileté technique. Tu mets tout ça ensemble. C'est un peu comme dans la musique, un batteur. Il a les deux pieds et les deux mains qui travaillent en même temps. Et puis, ils peuvent aller à chacun à contre-rythme et puis ça paraît pas. Ils peuvent jouer du jazz, ça paraît pas. C'est un peu la même chose pour un doubleur. C'est quelqu'un qui doit avoir le talent d'un comédien, une diction parfaite, mais en même temps, maîtriser la technique du doublage très bien et avoir une très bonne mémoire aussi.
Alors, au bout de deux fois, par exemple, c'est assez. Si quelqu'un trébuche 3-4 fois la même ligne, est-ce que tu penses que c'est quelqu'un qui a du talent ou pas?
Ah, écoute, tu trébuches. Il y a beaucoup de gens qui trébuchent. Les plus grands professionnels trébuchent. On n'est pas à l'abri de s'infarger, comme on dit, mais, ou de bafouiller. Mais aujourd'hui, à la vitesse à laquelle le doublage se fait, c'est tech one, tech two.
Voilà.
Tech three, une fois de temps en temps.
Une fois de temps en temps.
Une fois de temps en temps, c'est possible, ouais. Tout est possible. Mais quand on veut faire du peaufinage aussi, il faut demander des choses. En tant que directeur, moi, je suis exigeant. Je demande des choses. Et j'ai des directeurs qui me demandent beaucoup de choses. Parce que quand on fait une boucle en doublage, on écoutait ce que l'anglais faisait pendant 30 secondes. Ensuite, il faut répéter à peu près la même chose. Quand on le fait, on a notre propre perception de ce qu'on pense qui est bon. Mm-hmm. Et le directeur en a une autre. Alors, si lui te dit, tu vas aller juste parler un peu, tu l'écoutes, tu le fais. Puis il te dit, OK, maintenant, entre les deux, tu le fais. Puis après ça, ça va.
Mais Manuel Tadros, oui. Est-ce que vous ne trouvez pas quand même que le doublage, comme le cinéma, impose pas des cadences un peu trop élevé maintenant pour les comédiens et comédiennes parce qu'on a de moins en moins de ressources, on veut faire les choses rapidement. Ça n'a pas des grandes...
La raison est qu'on a énormément de compétitivité, de compétition, dans le sens que, bon, si, je donne un exemple, si par exemple, tu as un garagiste qui... On va encore venir au moteur d'automobile.
Oui, oui, je vois.
Alors, tu as un garagiste qui te dit, je peux réparer ton moteur parfaitement en 3 heures. D'accord? Puis un autre garagiste qui va te dire, écoute, je peux réparer ton moteur en 2 jours, j'ai pas une bagnole à te prêter, mais le travail va être impeccable.
Ouais, mais l'expression, la comparaison est quand même importante, là, je veux dire, quand on demande sur commande aux gens de sentir, de proposer
c'est ça,
une émotion.
Comme on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression par rapport au temps que ça prend, les heures de studio, les gens qui sont engagés pour faire des plans de travail.
Beaucoup d'argent.
Tout ça, il y a beaucoup d'argent. Ils veulent que ça se fasse rapidement. Ils veulent prendre des gens qui sont des bêtes. De somme, des gens qui travaillent vite, bien, professionnels et tout ça. Et parmi les nouveaux, c'est sûr qu'il y en a qui sont extrêmement bons parce qu'ils sont tombés dedans quand ils étaient petits. Moi, quand j'ai fait du doublage la première fois, et je remercie M. Vincent Davy qui m'a engagé pour la première fois, il m'avait dit ceci, il m'a dit, il dit, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit.
Venant de Vincent Davy, mesdames, messieurs, c'est une sommité. C'est le roi du doublage.
Des fois, c'est naturel chez toi de faire du doublage. Des fois, ça ne l'est pas.
Dis-nous, avant de terminer, est-ce que, 2 dernières questions, est-ce que tu doubles toujours des gens qui te ressemblent physiquement?
Écoute, parce que... je double beaucoup de mes techs. Ils sont souvent beaucoup plus laids que moi. Et je ne chipote pas. Et je double beaucoup de latinos, beaucoup d'arabes, beaucoup de grecs, beaucoup de juifs, beaucoup de... Tous les étrangers, je les double.
Parce que t'as une oreille parfaite.
Mais par contre, je double aussi Gary Oldman, je double beaucoup de noirs, je double Martin Lawrence, Vin Grams, des grosses voix, Ray Winston, puis... Et Gary Oldman, je suis content, justement, je viens de faire le doublage de L'heure la plus sombre et il a gagné le prix du meilleur acteur aux Oscars. Là.
Tout à fait, j'ai entendu ce film-là.
Alors, j'étais vraiment content, j'ai gagné l'Oscar.
Alors, personnages que tu as, est-ce que tu en as qui sont attitrés en ce moment, qui, pour qu'on puisse te reconnaître, qui tu as comme personnage?
Ben c'est ça, j'ai Antonio Banderas, j'en ai fait 3-4 cette année. J'ai Gary Oldman, puis parmi les gens un peu plus connus, j'oublie toujours tous ceux que je fais, j'en fais à peu près 120. Mais sur ceux-là, il y en a qui sont plus réguliers que d'autres, mais les gens, peut-être John Turturro, qui d'autres, Seigneur Dieu.
En terminant, me donner celui qui t'émeut le plus, le personnage que tu as fait en doublage, qui t'a...
Carrément Winston Churchill dans L'heure la plus sombre, The Darkest Hour. Ouais. Ça a été un doublage, c'est mon plus beau doublage de ma vie.
J'ai beaucoup aimé ta scène dans le métro. J'ai eu presque des larmes parce que c'était très, très, très vrai, très senti.
Ah, tu l'as vu en français?
Oui, bien sûr.
Bon.
Bien sûr.
Oui, évidemment. Mais Gary Oldman, là-dedans, il faut l'accoter, comme on dit, hein, parce qu'il est fabuleux.
Merci.
Elle n'est pas là aujourd'hui.
Non, elle n'est pas là aujourd'hui, mais à un certain âge. On apprend, on peut apprendre qu'on a une maladie chronique ou héréditaire. C'est un petit choc. On n'a pas invité psychiatre pour en parler, mais on a permis une communication avec Claudine Larivière, qui, depuis l'étranger, nous parle, qui est nutritionniste et spécialiste en productivité humaine. Bonjour, Claudine.
Bon après-midi.
Bon après-midi. Et il y a peut-être deux maladies héréditaires ou chroniques qu'on peut avoir même au jeune âge, puis pour lesquelles la nutrition peut vraiment faire la différence. On commence par le diabète, hein, dont on parle beaucoup. Parle-nous de ça un peu, surtout le type 2, mais pas seulement.
Oui, bien en fait, c'était vraiment une question intéressante. C'est que la nutrition, c'est sûr que c'est la base de notre santé, je vous le dis toujours. On peut vraiment faire des méga différences au niveau de notre alimentation pour faire avoir un bel impact sur notre santé. Mm-hmm. Puis, il y a deux maladies qui peuvent se présenter en bas âge, comme le diabète et aussi, en fait, le cholestérol, on appelle hypercholestérolémie, mais quand on dit qu'on fait du cholestérol, ça veut dire que notre cholestérol est trop élevé. C'est deux conditions qui sont assez connues, mais ce qu'on ne sait pas et ce que la majorité des gens ne sont pas en mesure de différencier, c'est qu'il y a un type de diabète et un type de cholestérol qu'on peut avoir plus jeune, en bas âge, dû à un effet familial, un facteur génétique. Et on peut aussi développer le diabète et un taux de cholestérol trop élevé parce qu'on a fait des mauvaises décisions aussi au cours des années là, dans notre vie d'adulte, en fait.
Bien sûr.
Et dans les deux cas, bien, c'est sûr que la nutrition, elle joue un rôle primordial. C'est sûr qu'on peut améliorer la gestion des deux maladies.
Pour le diabète qu'on aurait en bas âge, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire avec la nutrition? Qu'est-ce qu'on doit aller chercher dans notre assiette? Évidemment, on oublie le sucre, mais au-delà de ça...
Oui, au-delà du sucre, bien, c'est sûr que c'est une gestion vraiment beaucoup plus générale. C'est que simplement, on est dépendant de l'insuline, donc on doit injecter de l'insuline. Quand on a un diabète de type 1, donc un diabète de type juvénile, on est vraiment dépendant de l'insuline. Donc, ce qui est important, c'est que tout ce qu'on va manger, le contenu de ce qu'on va manger, doit malheureusement être bien géré si on va être en mesure de s'administrer les bonnes doses d'insuline. Fait que la gestion du diabète de type 1, malheureusement, pour les parents et aussi les enfants qui vont avoir ça, c'est sûr que ça demande beaucoup plus d'organisation que si notre pancréas produirait de l'insuline par lui-même.
Ouais.
Donc, c'est sûr qu'il faut équilibrer autant les protéines que les glucides, donc où on va aller puiser les sucres, que les légumes, donc où on va aller chercher aussi des fibres. Donc, l'alimentation vraiment saine, de façon générale, devient hyper importante.
Est-ce qu'on mange différemment? Est-ce qu'on mange des gros repas? Est-ce qu'on en mange des plus petits, plus régulièrement? Comment on fait ça?
Non, en fait, ça va vraiment dépendre du type de gestion qu'on veut faire avec notre médication, qui est notre insuline dans ce cas-ci. Mais c'est vraiment, les gens pensent que c'est complètement différent, mais en fait, c'est juste d'adopter une alimentation qui est saine, que tout le monde devrait faire, en fait. Et c'est là que la gestion devient beaucoup plus facile en complémentarité avec l'insuline qu'on doit s'administrer à tous les jours. Donc, manger fréquemment des petits repas, des collations, avec des repas, des collations qui sont équilibrés, comme on en parle souvent à l'émission, avec des protéines, des glucides, des fibres, beaucoup de fraîcheur, mais c'est de mise autant pour cette clientèle-là que, ben là je dis cette clientèle-là parce que de par mon contexte professionnel, là, mais de par ces gens-là, que autant que la population en général, en fait.
Le cholestérol, hein, c'est tellement fréquent qu'on entend ça. Oh, je fais du cholestérol. Ça peut même s'empirer là, à partir de mon âge, à partir même de la quarantaine.
Oui.
Qu'est-ce qui se passe exactement avec ce cholestérol?
Bien, en fait, c'est juste que plus on est inactif, donc le facteur d'activité physique est toujours super important. C'est quand même 20% de la démarche.
Ah oui.
Mais aussi, si on fait constamment des choix nutritionnels qui sont pas nécessairement de meilleure qualité ou qu'on va manger beaucoup d'aliments transformés, on oublie que dès qu'on mange des aliments qui sont transformés, nécessairement, on va avoir des gras qui sont pas toujours les meilleurs. Et aussi, il va y avoir des sucres raffinés. Donc, tout ce qui peut contribuer, en fait, à la formation de plaques de gras dans notre système cardiovasculaire. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut développer à partir de 30-40 ans facilement.
Ah oui, même la trentaine.
Bien sûr.
Ah oui.
Ah, mais oui. Ben oui, tu sais, moi, j'ai des clients qui sont à risque de cholestérol élevé en très bas âge, là, mais ça, c'est beaucoup, je dirais, avec l'évolution de l'industrie alimentaire actuelle. Là. Ouais. Malheureusement,
c'est facile d'accéder à des...
d'aliments transformés. Ouais. Mm-hmm.
Bon. Et oui. comment on arrive à vaincre ça? Donc, avec une meilleure alimentation, moins de transformés, plus de frais, vous, hein?
Absolument, absolument. Donc ça, c'est sûr que si on n'est pas rendu à prendre la médication, tant mieux. C'est comme le diabète de type 2, on veut pas se rendre à la médication. Donc, il faut prévenir le plus possible ou réduire les dommages collatéraux. Oui. Puis vraiment, y aller avec une alimentation saine, on bouge, on va vers la fraîcheur. Faut vraiment là, faire un 180 degrés puis changer notre alimentation. Si on est déjà sur de la médication... Tout dépendamment des dosages, ça peut être réversible. On peut vraiment aussi mettre en place des changements puis être constant avec ces changements-là et renverser la vapeur.
On pourrait renverser la vapeur?
Oh mon Dieu! Ben écoute ça, Benoît, c'est vraiment...
Oui, c'est tellement particulier.
Super bonne question.
Oui, mais c'est difficile.
C'est tellement propre à chacun, ouais. Absolument.
OK, mais c'est, ça prend du dirais, travail. Là, en ouais.
fait, oui, absolument. Puis je dirais le cas qui est le plus... qui est le plus difficile à gérer, c'est les hypercholestérolémies familiales. C'est-à-dire que les gens qui ont un taux de cholestérol plus élevé, mais de par leur génétique, c'est même pas de leur faute.
Ah oui.
J'ai des athlètes de haut niveau qui sont obligés de prendre la médication, on appelle les statines, en fait, parce que même si on gère bien leur alimentation, même s'ils gèrent bien leur niveau d'activité physique, malheureusement, ils sont prédestinés à être pris avec cette condition-là.
OK. Donc, mais la majorité ne peut pas être retrouvée. C'est ce qu'on se dit aussi. Il y a une partie qu'on peut retrouver avec l'alimentation.
Ah, oh, absolument. Mais l'alimentation, elle est de mise pour tous les cas. C'est sûr et certain. Parce que si je prends quelqu'un qui a un diabète de type 1 ou quelqu'un qui a un diagnostic d'hypercholestérolémie familiale, par exemple, et qu'il ne gère pas bien leur alimentation, ben là, c'est sûr qu'on empire la
Bon, mais on fait pas juste parler de bonnes nouvelles ici. Mais c'était heureux quand même. Vous êtes une bonne nouvelle, Claudine Larivière. Rappelons que vous êtes nutritionniste et spécialiste en productivité humaine. Merci beaucoup.
Merci.
Long again. road is long, carry on, try to have fun in the meantime. We were born to die.
Alors Manuel Tadros, on arrive à la fin de l'émission. Manuel, comment tu as aimé l'expérience? Est-ce que tu as appris des choses? Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de rajouter sur les intervenants qui...
Non, bien sûr, tout le monde est très intéressant, tout le monde sait de quoi il parle. Évidemment, la conclusion de ça, c'est vraiment le sport, la bonne nutrition, hein, être conscient de ce qu'on mange, comprendre ce qui est mauvais et ce qui ne l'est pas, mm-hmm. et ce qui est bon pour nous. Et puis surtout, moi je dirais, j'ajouterais les quantités. Parce que, vous savez, vous dites par exemple, un diabétique ne doit pas prendre beaucoup de glucides, d'accord ? Mais il peut prendre des protéines et de la salade. Alors la personne se tape un steak de 16 onces avec une bonne grosse salade, puis elle se dit, bah, tout va bien, je n'ai pas pris de glucides. Mais ce n'est pas vrai, parce que le steak en question est tellement énorme qu'il va de toute façon se transformer en molécules de glycogène après. Et puis tout d'un coup, on va peut-être pas avoir besoin de beaucoup d'insuline pour ce repas parce qu'il n'y a pas de glucides dedans, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de pâte, il n'y a pas de riz, il n'y a pas de patates, il y a peut-être juste du steak avec la salade. Mais à minuit, 1h du matin, tout d'un coup, on va s'apercevoir que sa glycémie est à 12 et peut-être à 3h du matin, 4h du matin, à 18. Parce que tu as trop de steak dans le corps.
Voilà, il faut se méfier de ça.
Alors donc, il faut comprendre que quand on décide de ne pas manger de glucides, il faut savoir aussi prendre des portions intelligentes.
Et c'est ce que tu fais, et finalement,
et
le végétarisme, c'est aussi une bonne avenue, végétalien
moi,
aussi.
Je me considère beaucoup plus maintenant végétarien que carnivore, parce qu'avant j'étais presque exclusivement carnivore.
Oui, t'aimais beaucoup la viande,
j'ai fait un virage, comme on dit, à 180 degrés, parce que si j'avais fait un 360, je serais resté sur place.
Alors... Donc comme disait ton médecin, tu ne serais pas passé dans la porte, là. Hein,
oui, mais ça? 360, c'est presque de l'exercice, ça, quand même.
C'est ça. Ouais. Ouais, au dieu de la danse.
Au dieu de la danse. Alors, il y a des projets, tu vas être sur scène.
Oui, je sors de scène, je viens de finir La mort du commis voyageur.
Oui, qui s'est très bien passé.
Et là, je suis en répétition présentement pour le théâtre La Licorne, où je serai... 5 personnages différents dans une pièce fabuleuse.
Ça, t'aimes ça.
Ouais, mais ça prend de l'énergie quand même, avouons-le.
Oui, d'ailleurs, quand je suis au théâtre, je prends ma glycémie 3 fois dans la soirée au moins.
Ah ouais.
Oh, oui, pour être sûr de ne pas monter sur scène. En hippo, parce que là, je peux emmerder tout le monde.
Oui,
j'ai emmerdé Sophie.
Il m'a emmerdé.
Dans ma première pièce de théâtre.
Et c'est comme ça que j'ai su, ouais, tout à fait. Parce qu'il était en crise, quoi.
Oui.
Ouais,
c'est ce qui... Mais maintenant, je ne fais plus
sur un bateau.
En passant, il faut que je te dise qu'à l'époque, mon insuline était animale. Et les crises d'hypoglycémie étaient beaucoup plus fulgurantes que maintenant. J'ai une insuline
synthétique,
l'humalogue, qui est humaine, enfin qui est synthétique humaine, c'est-à-dire qui est basée là-dessus. Et puis elle s'osmose parfaitement, je peux me piquer au même endroit, je ne fais pas de plaques, je ne fais rien. Mmh. Et puis en même temps, c'est génial parce que je sens que je commence à baisser graduellement.
Ouais.
Je peux prendre mon truc, tandis qu'après, avant, c'était des coups de poing.
Ah
ouais,
non,
mais
il
y a sûrement un peu de sagesse là-dedans. D'ailleurs,
oui,
il y a une sagesse tout juste à côté, comme d'habitude, docteur Baruel.
Ouais.
Ah ben oui, c'est notre sagesse médicale. Et il y a peut-être une question que vous aimeriez poser, que vous n'avez jamais osé poser.
Oui, j'en ai parlé avec un médecin à un moment donné, mais j'aimerais bien que docteur Baruel me... Baruel, mais c'est Baruel ou Baruel?
Baruel.
Bah, alors pourquoi vous dites Baruel?
Parce que vous êtes des minorités audibles.
Ouais.
C'est tout.
Bon, faites attention, hein. Bon, alors... Non, docteur Baruel, j'ai une question pour vous. Pourquoi dit-on que la consommation de stupéfiants, comme la cocaïne ou la marijuana, peut faire grossir le cœur? Et quelles sont les conséquences néfastes du grossissement d'un cœur?
La cocaïne, comme le diabète d'ailleurs, la cocaïne elle-même provoque des vasoconstrictions. Le diabète, lui, c'est une vasoconstriction permanente. Alors que quand on prend de la cocaïne, ça provoque une vasoconstriction des artères qui nourrissent le cœur.
Oh.
Donc ça fait des petits infarctus. Je simplifie.
Ouais.
Cela dit, c'est vrai qu'une heure après avoir pris une ligne de cocaïne, on risque un véritable infarctus. Hein. Ça, il faut le savoir. Mmh. Et donc, s'il y a des petits infarctus partout au niveau du cœur, il va être beaucoup moins efficace et il va falloir qu'il y ait une... Il va se dilater pour être un peu plus efficace. Mais on a quand même une insuffisance cardiaque à terme. On risque l'insuffisance cardiaque.
Oui, parce que quand le cœur est plus gros,
oui,
on a moins d'énergie. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit un petit cœur solide qui pompe bien plutôt qu'un gros cœur qui pompe mou.
C'est ça, oui, là. Mon cher confrère, c'est exactement ça.
Un cœur qui pompe mou.
Parce qu'en fait, un gros cœur, il a pas beaucoup de tonus. Et il va avoir une grosse quantité de sang à éjecter, mais comme il n'a pas beaucoup de tenues, il va en éjecter un tout petit peu. Alors que le petit cœur qui éjecte puissamment une petite quantité, ça sera beaucoup plus efficace.
Ouais.
Ben alors merci, voilà. mes petits cœurs.
Mais... Moi j'ai encore merci. Un petit cœur.
Oui, voilà.
Petit cœur, ben voilà. Ouais,
parce que quand je fais le tapis, c'est bon.
Bon.
Merci
Et
beaucoup.
Il y a plein de gens à remercier parce que vous avez tous été des cœurs, il faut le dire. Il y a aussi ces chroniqueuses et chroniqueurs. Donc Sylvie Lauzon, présidente directrice générale de Diabète Québec, Mali Pradichit, naturopathe, et Claudine Larivière, nutritionniste.
Cette émission n'aurait pas été possible sans Jean-Sébastien Laliberté. Liberté à la mise en onde, Christiane Campagna aux communications et Catherine Bourderon à la recherche.
Qu'on se le dise, il existe plein de voies pour prendre soin de sa santé, hein? Même quand on est jeune ou quand on a plein de voies comme vous. Ici Benoît Racet.
Ici Sophie Stanquet.
C'est bon pour la santé!